L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'heure de notre passion selon Saint-Net sur BFM Business dans cet atelier numérique. Et cette semaine, en compagnie de Lila Megraoua, notre invitée, on va parler de robots. Tiens, et alors, avec une accroche un peu particulière, est-ce que finalement le robot ne serait pas un homme comme les autres, Lila?
Pas comme les autres, c'est selon. On va essayer d'avoir des éléments de réponse avec Denis Vidal. Bonjour.
Bonjour.
Denis Vidal, vous êtes anthropologue. Outre vos activités de recherche à l'Institut de recherche pour le développement Urmis Paris d'Hydro, vous êtes également auteur. Vous avez publié un ouvrage aux frontières de l'humain aux éditions Alma. Et vous êtes également enseignant associé parmi d'autres institutions. Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, au musée du Quai Branly. Musée où vous avez laissé observer un robot. Berenson déambulait du 17 au 27 avril dernier à l'exposition Persona, donc dans ce musée du Quai Branly. Donc c'est un robot que vous avez développé avec le laboratoire Letis à Cergy. Est-ce que vous pourriez revenir pour nos auditeurs sur cette expérience mise en place du robot Berenson?
Oui, bien sûr. Peut-être dire que ce qu'il fait ou comment les gens le perçoivent.
Donc, voilà, déjà peut-être le décrire parce qu'il a un look
assez particulier. Donc c'est un robot qui ressemble pas du tout à l'image futuriste du robot comme vous avez dû vous en apercevoir. Au contraire, il a l'air d'une sorte de d'esthète vaguement du 19e siècle. D'un dandy du 19e siècle.
C'est parce qu'il a un chapeau.
Parce qu'il a un très beau chapeau qu'on a emprunté à une de nos collègues, et qui avait donné ça de quelqu'un de sa famille. Et donc, Berenson.
Mais malgré tout, il ressemble, enfin, il a deux yeux, il a une forme humanoïde, on va dire.
Il a une forme humanoïde, il a un manteau, et c'est assez obscur, le musée du Quai Branly, d'ailleurs, si vous avez été l'atmosphère assez sombre. Donc, c'est un robot qui a une particularité, enfin, c'est un objet qui a une particularité. Si vous voulez, quand on arrive dans le musée, généralement, dans un musée, il y a des objets et des visiteurs. Et lui, au lieu d'être, il se promène au milieu des visiteurs, et il regarde des objets comme les visiteurs.
D'accord.
Et quand...
Donc c'est un objet qui regarde d'autres objets.
Voilà. Et ça trouble un peu les gens, d'autant plus que quand les objets... Enfin, bon, je pourrais expliquer le mécanisme, mais quand les objets lui plaisent, il sourit et il va vers eux. Et ensuite, aussi, il va aussi peut-être vous voir, vous, se diriger vers vous. Si vous lui plaisez, il va vous sourire. Et sinon, il fait la moue et il s'éloigne.
Ah d'accord.
Donc en fait, il sème le trouble.
Alors quelles sont les réactions que vous avez constatées auprès des visiteurs face à ce robot? Est-ce qu'il y a des réactions qui vous ont étonné, vous en tant que chercheur?
Énormément, oui. Et alors peut-être ce qui nous a étonné le plus, c'est que bon, si vous voulez, il y a une première réaction de surprise que des gens devant ce robot qui nous étonne pas. Et ensuite, quand ils le voient, ils essaient de comprendre qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce que c'est, on leur explique tout. Ça ne nous étonne pas vraiment non plus. Mais ce qui est très intéressant, c'est le troisième temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils savent, bien, c'est une machine, on a tout expliqué, ils reviennent généralement, ils vont vers le robot. Et là, ils essaient vraiment de communiquer avec lui. Donc, alors que c'est un robot, par exemple, qui ne parle pas, mais beaucoup de gens, s'il leur sourit, ils veulent absolument que le robot leur sourie. Et s'il leur sourit, bon, surtout les jeunes filles vont dire, je lui plais, etc. et tout. Ils sont vexés si le robot fait la gueule et parle d'un autre côté. Voilà.
Donc il y a quand même un certain mimétisme avec une vraie personne, quoi.
Les gens réagissent comme si c'était réagissent réellement comme si c'était une personne l'indice pour nous le plus significatif, c'est que on a vu pratiquement personne qui s'éloigne de ce robot sans lui dire au revoir, sans lui faire un geste de
la
main.
Il ne laisse pas indifférent.
Il est très rarement indifférent, sauf ceux qui ne le voient pas.
Est-ce que vous pensez que demain, pour que la robotique entre, fasse son incursion parmi le grand public, on aura nécessairement besoin que le robot ressemble à un être humain? soit humanoïde, pour qu'on puisse reporter notre affect sur lui ou voir tout simplement.
Vous savez, c'est une question enfin qui est beaucoup débattue par les roboticiens, et la réponse est j'allais dire pas évidente, mais pour les robots de service, les robots compagnons, il y a pas mal de raisons qui font que ça devrait être mieux un robot humanoïde. Il y a des raisons d'interaction, hein, comme ça. Et puis il y a une raison toute bête auquel on pense pas toujours forcément, c'est qu'en fait, comme il est pas, les robots humanoïdes peuvent s'adapter, ont des bras, des jambes et tout, donc peuvent manipuler les objets d'une manière, des objets qui ont été prévus pour les humains. Donc l'avantage d'un robot humanoïde, et c'est un des grands arguments économiques, c'est qu'il n'oblige pas à réorganiser complètement les domiciles pour s'en occuper.
Alors vous le dites, dans cette exposition, on a le robot Berenson qui simule ressentir le sentiment d'une émotion artistique.
Oui.
J'imagine que c'est quelque chose de programmé. Il y a énormément d'interrogations sur pourra-t-on demain donner au robot un sentiment humain. Vous, dans votre ouvrage, vous dites que la question n'est pas tant de savoir le robot pourra éprouver des sentiments demain comme un être humain, mais plus de savoir s'il pourra donner le change, s'il pourra donner le change.
Alors d'abord, une toute petite précision. D'abord, il n'est pas programmé. Hein, c'est ça tout l'enjeu. Il est programmé. C'est ça. Bon, ça c'est le principe un peu de la nouvelle robotique, enfin de la robotique développementale. C'est-à-dire qu'il est programmé. On lui donne quelques goûts au départ. Mais justement, s'il aime quelque chose et qu'il vous regarde vous et qu'il vous aime parce qu'il a aimé quelque chose avant, du coup, ensuite, il va apprécier des gens ou des choses qui vous ressembleront aussi à vous. Donc, si vous voulez, très rapidement, même si on programme les quelques goûts de départ ou les quelques réactions.
Oui. Après, il y a une vraie intelligence artificielle, on va dire.
Il y a une vraie histoire. Donc, chacun de ces robots aura son,
notre robot sa particularité, son caractère, en quelque sorte. On peut dire ça comme
caractère.
Ça.
Voilà.
Et puis, ça se programme malgré tout, non? Vous allez dire, tu vas peut-être préférer, les visages ronds avec des cheveux ou certains paramètres des traits comme ça.
Au début. Mais comme après ça se mélange avec sa propre histoire, nous-mêmes, on n'est pas en mesure de dire après ce qu'il aimera ou ce qu'il n'aimera pas.
Donc, il y a une espèce de patine numérique. En quelque sorte.
Tout à fait. C'est l'équivalent, en fait. C'est-à-dire que c'est comme nous, quoi. Il y a des traits acquis, au départ, qui sont, en gros, si on simplifie beaucoup, disons, quelques goûts on aime bien ses parents, généralement, ou quelques goûts comme ça. Et puis ensuite, il développe ses propres goûts en fonction de la façon dont il circule et de ce qu'il voit, si vous voulez. Et alors, pour répondre à votre autre question, tout à fait, c'est-à-dire que en fait ce que pensent les anthropologues, c'est qu'en fait nous on est dans une culture très particulière où on fait une distinction très stricte entre ce que d'un côté des objets, d'autre côté les êtres humains, et les personnes c'est uniquement les êtres humains, pas les objets. Bon, il y a quelques chats, quelques chiens qui font un peu, mais en gros c'est ça. Et en fait, si ce qu'on pense, c'est que au fur et à mesure que se développent des objets intelligents, on va retrouver un trait qu'on trouve dans beaucoup d'autres cultures, c'est-à-dire qu'au fond la notion de personne est beaucoup plus distribuée. C'est plus seulement en fait il y a des objets
qu'on pourra avoir un attachement envers un robot dans quelques années, comme aujourd'hui on l'a pour un chat ou un chien.
C'est très probable.
C'est déjà le cas d'ailleurs au Japon. Hein. On voit que nos amis japonais sont très sensibles aux robots, hein, et véritablement souvent se projettent sur leurs robots. C'est assez étonnant. Hein.
Voilà, donc ça commence déjà.
Comment vous expliquez, vous l'évoquiez un peu plus tôt dans l'interview, comment vous expliquez la fascination qu'on peut porter à nos amis robots ou automates? Qu'est-ce qui va nous fasciner, c'est leur capacité d'autonomie, de...
Non, je crois que ce qui fascine vraiment les gens, c'est la capacité d'interaction. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qu'on voit très bien avec les enfants, c'est la première chose qu'ils voient. C'est des interactions simples, se mettre devant, voir que le robot bouge, et puis ensuite essayer. On voit très bien les gens essaient de lui sourire. Est-ce que le robot va aussi me sourire? Donc en fait, c'est pas tellement l'apparence. C'est vraiment est-ce qu'on a une forme d'interaction et qui n'est pas tout à fait prévisible, qui est pas purement mécanique. Donc du coup, ça va marcher ou ça va pas marcher. Donc du coup, c'est une sorte c'est un peu comme dans la vie, quoi. C'est qu'on s'intéresse aux gens, s'ils sont trop prévisibles, c'est pas intéressant. S'ils le sont totalement imprévisibles, c'est pas intéressant non plus. Là, c'est cet aspect-là.
Quelle est votre prédiction à vous? Est-ce que vous croyez une cohabitation demain robot humain? Ce qui amène une autre question d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait imaginer une anthropologie du robot?
La question que vous avez posée à la fin, réponse oui. À la première question, je crois qu'il y aura effectivement qu'on peut envisager tout à fait cette interaction. Par contre, ce qu'il faut dire très très immédiatement, c'est que en dépit de ce qui est annoncé, enfin les robots actuels ne sont pas capables dans des circonstances très très précises. Donc
il faut se projeter.
Les roboticiens eux-mêmes ne savent pas en fait quand, vous voyez, parce que les robots sont surtout quand ils marchent sont pas assez sûrs, il y a des tas de critères. Mais voilà, donc c'est plutôt du côté du perfectionnement des robots que de l'adaptation des humains que ça va se jouer.
Merci beaucoup Denis Vidal.
Merci. Merci beaucoup.
Passionnant aussi ce sujet. On revient dans un instant pour la suite de l'atelier numérique sur BFM Business avec notre World Tour, French Tech Tour, et puis après ça sera la rédaction de Zeronet.com comme chaque samedi. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Imaginez un food truck avec de l'argent dedans. C'est un peu ça. On va en parler dans un instant. Avec Aurore Giraud, c'est notre fan truck. Ça sera notre French Tech. Mais auparavant, direction San Francisco, c'est notre dossier de l'atelier US. Et on va parler du transport à la demande à San Francisco. Avec vous, Pauline Cantner.
Oui, François. Cette semaine, on va parler de transport à la demande avec le cofondateur de la startup Wings basée à San Francisco. J'ai la chance d'être aux côtés de Jérémy Roman. Jérémy, est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps?
Oui, donc je m'appelle Jérémy Roman. Je suis le cofondateur d'une compagnie qui s'appelle Wings, basée à San Francisco. J'ai commencé ce projet en France il y a une dizaine d'années. À l'époque, c'était une plateforme de covoiturage très innovante, peut-être un peu trop innovante pour l'époque, parce que du coup, ça marchait plutôt bien, mais pas assez pour en faire une vraie compagnie. Et donc, du coup, pour différentes raisons, on a décidé au bout d'un moment de transférer le projet ici à San Francisco. Et après plusieurs évolutions, c'est devenu le projet actuel, donc qui s'appelle Wings, qui consiste à être un système de chauffeur privé pour aller à l'aéroport très facilement et pour pas cher.
Et chez Wings, vous vous occupez exactement de quoi aujourd'hui?
Alors moi, je suis cofondateur. On est 4 cofondateurs dans la compagnie. Aujourd'hui, on est à peu près 35 personnes ici à San Francisco, une quinzaine de personnes en France. Donc la compagnie, on va dire, a une nouvelle organisation, une nouvelle histoire à peu près tous les 2 mois parce qu'on grandit assez vite. Mais moi, je suis plus focus aujourd'hui sur la partie produit et technologie.
Quel problème solutionnez-vous avec Wings?
Alors le problème, c'est que globalement, pour aller à l'aéroport, un peu partout aux États-Unis, un peu partout dans le monde, c'est pas très simple, c'est assez confusant. Parce que donc les taxis sont difficiles à programmer à l'avance. On a aujourd'hui toute l'offre, notamment avec Uber, qui est intéressante, mais qui est très non prédictible en termes de prix, en termes de qui va être le chauffeur, en termes de quelle voiture on va avoir, par exemple, si on a beaucoup de valises ou ce genre de choses. Donc nous, le problème qu'on résout, c'est simplement d'avoir un chauffeur privé qu'on peut réserver à l'avance, en qui on va avoir confiance parce qu'on connaît son profil à l'avance, etc. On connaît aussi le prix à l'avance, donc c'est totalement transparent. Et donc du coup, c'est une solution très simple et très efficace pour aller aux aéroports et pour revenir des aéroports.
Et alors, vous êtes implanté ici à San Francisco, dans un paysage qui est déjà assez complet, aux côtés de Uber ou Lyft, qui est son concurrent le plus gros ici qu'on ne connaît pas en France. Pourquoi est-ce que ça marche plus ici que ça n'a marché en France quand vous avez tenté de le lancer? Et est-ce que la culture ou le paysage actuel aide à ça?
C'est-à-dire que quand on a emmené le projet aux États-Unis, il s'est passé une chose assez dingue ici. ici, c'est qu'on s'est retrouvé dans un timing à peu près parfait quand les États-Unis, enfin la Californie en l'occurrence, ont régulé ce marché du transport peer-to-peer dans lequel donc sont Uber, Lyft et Wings. Donc on a été, on va dire, au bon endroit au bon moment et ça nous a permis de surfer sur cette nouvelle régulation pour créer donc ce service Wings qui est purement entre particuliers. Donc les chauffeurs sont des particuliers avec leur propre voiture, quelque chose qui bon pour l'instant en France, en Europe n'existe pas. Et on a eu la chance qu'aux États-Unis une régulation nous permette de légalement développer ce type de service. Et aujourd'hui, la plupart des États américains, des villes américaines, des aéroports américains sont en train de voter des régulations pour développer ce type d'activité. Donc c'est vrai que voilà, le timing a été très important. On s'est retrouvé vraiment ici à San Francisco au bon endroit au bon moment.
Est-ce que l'amour des Américains pour leur voiture y joue pour quelque chose?
La voiture, c'est un mode de transport extrêmement central aux États-Unis. Les transports en commun sont globalement peu développé, il y a quasiment pas de train. L'autre mode de transport qui marche très bien évidemment, c'est l'avion parce que les distances sont très grandes. Mais évidemment, ouais, le transport organisé autour de la voiture est du coup très très populaire et tous les Américains ont des voitures, ils ont même souvent plusieurs voitures. Donc trouver des personnes avec des voitures de qualité pour donner des rides avec notre service, c'est quelque chose d'assez facile ici.
Historiquement, les villes américaines, elles sont connues pour avoir beaucoup investi dans leur propre étalement, dans la construction d'autoroutes et pas forcément dans les transports publics. Et on pourrait se demander, est-ce que des solutions comme Uber, Lyft ou Wings naissent aussi dans un terreau qui est fertile en raison de cette histoire?
Alors, je pense complètement, parce que si on prend l'exemple de San Francisco où est né Uber, Lyft et Wings quasiment en même temps, c'est une ville déjà qui a aucune structure de métro, par exemple, qui est très grande, où le centre-ville est quand même très très étalé, et donc pour aller d'un point A à un point B, les transports en commun sont pas une méthode très très adaptée, et donc il y a pas finalement beaucoup de solutions. Les taxis ne représentaient pas une solution très fiable parce que difficile à utiliser, expérience pas exceptionnel, paiement difficile, etc. Donc naturellement, dès que Uber, Lyft et Wings sont apparus, il y a une adoption en fait très très forte parce qu'il y avait un manque énorme pour aller de n'importe quel point A, n'importe quel point B dans ces villes américaines, dans San Francisco par exemple, qui ont des tailles très 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 grandes, qui sont très étendues. Donc c'est clair que aux États-Unis, l'urbanisme a certainement eu un rôle très important sur l'adoption de ces services-là. En Europe, on voit que ces services fonctionnent aussi, mais je ne sais pas en fait si vraiment ils auraient pu naître dans une ville européenne, parce que le besoin primaire de se déplacer d'un point A à un point B dans les villes européennes est déjà beaucoup plus compensé par les moyens de transport comme le métro par exemple ou autre. Donc c'est clair que cette question-là a certainement beaucoup beaucoup joué dans la naissance et dans le succès, dans l'adoption de ces services aux États-Unis.
Alors aujourd'hui, vous comptez combien d'utilisateurs ?
Aujourd'hui, au global, on doit avoir quelque chose comme 30 000 et 40 000 utilisateurs vraiment actifs. Wings est ouvert dans 15 aéroports aux États-Unis, dans à peu près 8 villes, même si notre marché principal reste encore San Francisco. On étend notre couverture petit à petit.
Quelles sont les prochaines étapes pour vous ?
Alors les prochaines étapes, justement, c'est d'étendre notre couverture. Donc notre but, c'est de ouvrir le service dans plus d'aéroports, dans plus de villes, et de devenir un service national, donc disponible dans la plupart des grands aéroports aux États-Unis d'ici la fin de cette année.
Bah, je vous remercie beaucoup, Jérémy. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Wings, qui révolutionne le transport à la demande à San Francisco.
Merci.
Pauline, merci. Place maintenant donc à notre French Tech. Aurore Géraud, on va découvrir un nouveau mot. Aujourd'hui, c'est le fun truck.
Le fun truck. Nous sommes en compagnie de Benjamin Wattin, qui est cofondateur de SoWeFund, donc une plateforme de crowdfunding. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va pas parler d'alimentation, hein, on va pas parler de burger.
Donc on va.
Qu'est-ce que fun truck?
Alors le fun truck, c'est le premier concours destiné aux entreprises en recherche de financement sous forme de roadshow. Alors c'est un concours à l'initiative de SoWeFund, qui est une plateforme d'investissement participative. Et l'objectif, c'est qu'on a été souvent sollicités, nous en tant qu'investisseurs, pour participer à des jurys de concours. Il y en a vraiment beaucoup dans le cadre de la French Tech, dans le cadre de tous les acteurs de l'entrepreneuriat. Et donc on a voulu apporter quelque chose d'un petit peu innovant. Et on a décidé de permettre à une vingtaine de jeunes entrepreneurs, eh bien, de pitcher leur projet, donc de présenter leur entreprise devant les plus grands noms de l'investissement, donc plein de fonds d'investissement, plein de réseaux de business angels, des partenaires de l'écosystème, et ils vont présenter leur entreprise depuis un food truck. Donc depuis un camion, on a vraiment un vieux HY Citroën.
Et donc il y a un peu à manger ou pas dedans?
Alors, on vous offre le café avec grand plaisir.
C'est pas mal.
Mais ils ne préparent rien du tout, à part ils servent en fait leur projet.
Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est les investisseurs qui vont à la rencontre des startups. Alors comment ça marche?
Exactement. Nous, notre camion, il est quand même mobile. Notre baseline, c'est le fun truck, c'est l'innovation en mouvement. Et donc l'idée, c'est d'aller dans les plus grands lieux de la finance. Donc on va passer par et de l'innovation, on va passer par Future en Scène, par exemple, le 9 et 10 juin, où nos entrepreneurs vont pitcher devant des fonds d'investissement qui vont venir à leur rencontre. Et c'est ça un petit peu l'idée, c'est qu'il y a des partenaires, des gens qui généralement vous reçoivent entre quatre murs, dans des pièces un petit peu austères, et bien là, qui vont venir à la rencontre dehors. Ouais. Pour écouter les entrepreneurs.
Et puis ils jouent pas à domicile là, ça change peut-être un petit peu la vision des
exactement.
Choses.
Exactement, mais par contre ils jouent vraiment le jeu, et ça c'est sympa, ouais. Puisque même l'année dernière on avait eu de la pluie et c'était pas toujours facile.
Et donc du coup, vous prenez la tendance du food truck, est-ce que ça serait pas un peu gadget?
Alors, on pense pas que ce soit gadget, c'est quand même puis sympa pour la question. Non, c'est plus un jeu de mots. Aujourd'hui, on a vraiment vocation à vouloir servir et démocratiser en fait l'investissement. Mmh. Et c'est pour ça que, au-delà de permettre à ces entrepreneurs de pitcher devant des investisseurs, l'idée, c'est comme nous, on est une plateforme de crowdfunding. L'idée pour nous, c'est de démocratiser l'investissement dans les startups et de permettre aussi aux passants, donc aux particuliers, le particulier, l'individu français, eh bien, de participer et même de poser des questions, de voter pour sa startup préférée.
Oui, parce que vous êtes
parcours.
Dans des lieux publics, du coup.
Absolument. Mmh. En fait, on va avoir, pour des questions de géopolitique aujourd'hui, on a plus de difficultés à aller sur tous les grands lieux publics, puisque l'année dernière on était place de la République, place de la Bastille, cette année ça va être un petit peu compliqué.
Ouais.
Mais on sera quand même sur le carreau du Temple, on sera sur l'esplanade de la Défense, chez notre partenaire Engie, on va être sur un certain nombre de superbes étapes où on va pouvoir permettre aux entrepreneurs de pitcher.
Et du coup, est-ce que c'est pas aussi une solution pour les startups qui n'ont pas, par exemple, de relations presse ou ce genre de choses? C'est un food truck, c'est un peu de la communication aussi qui vient directement, non?
Ben c'est exactement ça l'idée, puisque le fun truck, eh bien, il n'y a rien à gagner. En fait, la vraie opportunité, c'est de pouvoir présenter son projet devant des investisseurs, de pouvoir présenter son projet devant le grand public, d'être exposé potentiellement médiatiquement, et puis surtout il faut savoir qu'entre chaque étape, il va y avoir des mentors. Qui sont des coachs qui vont coacher en fait les entrepreneurs entre la première et la seconde étape, entre la seconde et la troisième étape. Et ces mentors, c'est forcément des entrepreneurs qui ont été des entrepreneurs à succès l'année dernière. C'était Olivier Mathieu, Céline Lazor, Tatiana Jama. Donc c'est vraiment des entrepreneurs
Olivier
qui ont
Mathieu,
déjà
de Price Minister, hein,
de Price Minister.
On ne présente plus.
Et du coup, est-ce que c'est votre manière à vous de vous démarquer? On sait qu'il y a beaucoup de plateformes de crowdfunding qui se sont développées ces dernières années.
Oui, nous, notre différenciation par rapport aux autres acteurs, c'est vrai qu'on est une jeune plateforme, on a 18 mois, mais notre élément différenciant, c'est que on présente à notre communauté des dossiers qui ont déjà trouvé une partie de leur financement. Nous, on est la première plateforme de co-investissement. La majorité des dossiers qu'on met à disposition de notre communauté d'investisseurs sont des dossiers qui ont déjà trouvé auprès de réseaux de Business Angels, auprès de fonds d'investissement, déjà une partie des sous, de leurs besoins de financement. Et nous, on vient compléter pour leur permettre d'investir dans les mêmes conditions d'investissement et de valorisation, puisqu'il y a plein de déboires qui peuvent arriver chez certains de nos confrères. Et puis l'idée, c'est de pouvoir proposer les dossiers avec la plus belle sélection.
Et vous en êtes où de la sélection du coup?
Alors nous aujourd'hui, on va terminer l'appel à projet le 22 mai, donc demain. Et l'idée, c'est que à partir de lundi, on va pouvoir voter pour son entreprise préférée. Il va y avoir 3 entreprises qui vont être sélectionnées par le public.
D'accord.
Une quinzaine de entreprises qui vont être sélectionnées sur dossier par ce WeFund et 2 par un concours partenaire.
Super. Donc du coup, on vous souhaite beaucoup de courage.
Et on vous voit Future en Scène alors.
Vous nous voyez du 7 au 14 juin et en passant par Future en Scène.
Parfait, merci beaucoup.
Merci Benjamin Wattin.
Merci à vous.
Et vous restez avec nous, la suite de cet atelier numérique dans un instant. Et ce sera avec Eric Le Bourlou, la rédaction de Zeronet.com, qui me rejoint comme chaque samedi. Et puis juste après, le crash test d'Antoine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business chaque samedi 16h-18h. La rédaction de Zeronet.com maintenant avec Eric Le Bourlou, son digne représentant, rédacteur en chef qui est là comme chaque samedi. Salut Eric.
Bonjour.
Avec un spécial Google I.O. Alors là, c'est vrai que cette semaine, Google a tout sorti.
Hein, oui,
on peut le dire, avec une méga conf.
Au soleil.
Un peu comme un concert, en fait. Hein,
exactement.
C'était pas très loin du Googleplex. Dans un endroit atypique pour faire une conf.
Exactement. C'est parce que, à la base, c'est une salle de concert. Et c'était, en fait, en plein air. Hein, c'était, en plein cœur de la Silicon Valley. Effectivement, à quelques encablures du Googleplex. Ils ont fait ça là, dans cet amphithéâtre assez magnifique et gigantesque. Il y avait 7000 personnes. Hein, pour célébrer les 10 ans de cette conférence Google I.O.
Et voilà. Et les 17 ans de Google aussi.
Exactement. Ouais. Donc c'était un endroit très atypique, mais tout le monde avait l'air très content d'y être, en tout cas.
Oui, c'est parce que évidemment il y a la conférence, mais après il y avait la fête, etc.
Exactement.
C'était assez sympa, comme toujours hein, pour ces événements qui sont faits depuis la Silicon Valley. Un événement qui était retransmis donc en vidéo bien sûr pour tout le monde, mais aussi en 360. C'était un signe. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure en réalité virtuelle. Hein.
C'était un peu une première. C'est la première fois qu'on voit une conférence comme ça d'une grande entreprise des technologies à 360 degrés. Bon, je pense que ce sera pas la dernière, mais en tout cas, c'était la première fois qu'on voyait ça vraiment.
Samsung avait un peu initié la
chose. Alors, effectivement, pour les gens qui étaient effectivement à la conférence. Mais effectivement, là, c'était assez intéressant à voir aussi à 360 degrés.
Alors, on va rentrer dans les détails. Beaucoup d'annonces. On va évidemment pas tout évoquer hein, en 10 minutes, mais malgré tout, les grands moments, puisqu'il y a eu un peu d'hardware, un tout petit peu, beaucoup de soft, forcément, puisque c'est une conférence qui est réservée aux développeurs, rappelons-le. Et on va commencer par l'assistant que Google veut lancer, qui s'appelle comment ?
Google Assistant. Tout simplement. Google Assistant. Alors Google Assistant, on le connaît déjà.
C'est une évolution de Google Now, hein, c'est ça ?
Exactement. C'est
un truc un peu bizarre qu'on comprend pas toujours.
Exactement. Alors bon, vous savez, si Apple a Siri, Microsoft a Cortana, bah Google maintenant il aura Assistant. Il n'a pas de nom. Ils lui ont pas donné de nom. Mais ce que c'est effectivement l'évolution du service OK Google hein, qu'on connaît désormais très bien, avec encore plus d'intelligence, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lui formuler des requêtes beaucoup plus complexes et il va pouvoir interagir avec des services tiers. Typiquement, vous pourrez lui demander OK Google, réserve-moi un billet de train pour partir à Nantes, par exemple, ce genre de choses. Et voilà, on avait déjà vu ça un peu chez la concurrence.
On est toujours dans cette logique des chatbots qu'on évoque depuis plusieurs semaines
Hein. Donc c'est l'évolution de Google Now, mais c'est aussi un service, c'est pas une appli. Enfin, ce sera peut-être disponible sous forme d'appli, mais c'est transversal en fait à tous les services Google.
Oui, c'est intégré, on va dire, en profondeur au système Android.
Exactement. Et pourquoi pas aussi d'ailleurs aux applis Google qui seront sur iPhone ou sur ordinateur. Mais effectivement, c'est transversal. Donc, ce n'est pas une nouvelle appli, c'est une nouvelle technologie qui va en fait s'immiscer dans toutes les applis. Donc ça, c'est Assistant. Et c'est vrai que c'était voilà, ils ont commencé par ça pour montrer aussi que il fallait pas plaisanter avec eux au niveau intelligence artificielle. Effectivement, on a eu beaucoup d'annonces de Microsoft, de Facebook, mais Google est aussi dans la bataille. On sait qu'ils sont assez bons en la matière.
Voilà. Et puis il y a Siri aussi, hein. Même si Siri va nous devoir prouver quand même qu'il évolue.
Exactement.
Hein.
Là, on va voir. Intéressant. On verra ça très bientôt.
Parce que ça va être au tour d'Apple de nous faire sa WWDC. C'est en juin prochain.
Exactement.
Et on en reparlera évidemment. Donc ce Google Assistant, malgré tout. Ce Google Assistant pourra peut-être être connecté à ce petit objet
qui
a été annoncé, qui s'appelle Google Home.
Voilà, Google Home, c'est un petit peu c'est la façon qu'a eu Google de représenter ce que pouvait faire leur assistant. Alors c'est un petit objet effectivement qui ressemble
à pas grand chose.
Ouais. On va pas dire que c'est d'un point de vue design, c'est spécial.
Ouais.
Ça ressemble à une petite enceinte,
un petit pot de fleurs,
voilà. Et en fait, c'est effectivement un assistant domestique, une espèce de majordome que vous allez pouvoir brancher à la maison, qui va donc d'une simple commande OK Google vous écouter et faire ce que vous avez essayer de répondre à toutes vos envies. Vous pouvez lui demander de jouer de la musique, vous pouvez lui demander la météo, vous pouvez aussi lui demander des requêtes plus complexes du genre ajoute ceci à mon agenda, préviens un tel que je dois aller faire ceci.
Lui poser des questions aussi.
Poser des questions évidemment à la voix, quelle est la capitale des États-Unis, je ne sais quoi, enfin tout ce que vous voulez, enfin tout ce que vous faites déjà si vous voulez avec aujourd'hui avec un smartphone, mais avec l'intelligence d'assistant en plus et dans votre salon, quoi. C'est, voilà, vous aurez maintenant, vous pourrez avoir, en tout cas, si vous avez envie, Google en plein milieu de votre, sur votre table à manger, et vous pourrez l'appeler quand vous aurez envie.
Voilà, au cas où vous n'auriez pas eu assez Google dans la journée, hein. Maintenant, il sera avec vous au cœur de la famille. Ça va être sympa.
Ça va être sympa, ouais. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de questions de vie privée qui vont émerger d'ici la sortie de ce produit,
oui,
qui aura lieu.
Ouais.
Voilà, il est pas encore sorti. Il va sortir avant la fin de l'année. On ne sait pas s'il sortira d'ailleurs en France tout de suite, hein, parce que généralement, ce genre de produit, ils sont d'abord faits pour le marché américain. Et en fait, ce produit, ce qui est intéressant, c'est que c'est une réponse à un produit qui cartonne aux États-Unis, qui est l'Amazon Echo. Et l'Amazon Echo, c'est Amazon qui a vraiment lancé le premier cette technologie-là.
Avec Alexa, hein,
avec l'Alexa, qui est l'assistant d'Amazon. Et effectivement, c'est une réponse à ce produit. C'est à peu près les mêmes fonctions, en fait.
Voilà. Et c'est véritablement une mode, hein, aujourd'hui, pour parler des petites boîtes qui vous répondent. À noter que en matière de vie privée, Google a dit attention, hein, les gars. Si vous voulez, je peux
tout à fait
essayer d'apprendre tout ce que vous me dites et donc un peu fouiller dans votre vie privée. Mais si vous ne le voulez pas, il n'y a pas de souci. Je déconnecte.
Exactement.
Alors ça sera moins performant, mais malgré
tout,
voilà, comme ça, je respecterai votre vie privée.
Ouais,
ce qui est quand même un sacré dilemme.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Parce que pour que ce soit véritablement pertinent, il faut lui autoriser.
Autoriser accès à tout, ouais.
Voilà. Et puis je crois que ça pourra même commander des objets connectés de la maison.
Tout à fait. Hein? Effectivement, vous pourrez très bien lui dire, ferme les volets, ouvre la porte du garage, ce genre de choses à partir du moment, évidemment, que vos objets sont connectés.
Et puis il y a une petite enceinte, donc on pourra écouter la musique, etc.
Tout à fait,
il y a
Spotify,
un petit peu de Chromecast à l'intérieur.
Exactement.
Enfin. Voilà. On a l'impression qu'ils ont tout mis, hein, dedans.
C'est un petit peu ça. Mais on a hâte de le tester, en tout cas.
Exactement. Deux applis de messagerie qui ont été annoncées,
oui,
aussi durant cette Google I/O.
Exactement. Eric. Alors ça c'est assez surprenant, puisque Google et messagerie, il y en a eu, je ne sais pas combien de messageries Google a pu sortir au fil des années.
Ouais. Et la dernière étant Hangouts.
Hein. Hangouts, ouais, qui avait au moins le mérite de vouloir unifier toutes les messageries précédentes. Eh bien, il y a maintenant deux nouvelles messageries chez Google. La première s'appelle Allo. Alors Allo, c'est on va dire que c'est un concurrent de WhatsApp. Pourquoi ? Parce que ça c'est basé sur votre numéro de téléphone comme identifiant. Et Allo est dopé à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce dont on a parlé précédemment, il utilise toutes les technologies que Google a développées au fil du temps pour essayer de parfaire votre chat avec vos amis. Par exemple, vous mettez une photo, on vous envoie une photo d'un chien qui est mignon. La photo est analysée par Google et vous recevez le chien.
non,
ça serait pas mal pour la prochaine version peut-être. Mais ce que vous pouvez en tout cas faire, c'est des réponses automatiques sont générées à partir de la photo.
Mais des réponses pertinentes, c'est ça?
Alors des réponses pertinentes. Oh, ce labrador est très joli. Ou c'est mignon. Enfin, tout ça, c'est en anglais. Mais en fait, il vous crée ce qu'ils appellent des smart replies, des réponses intelligentes. Vous n'avez même plus besoin de taper avec vos claviers. Vous répondez, hop, en fonction de ce que Google vous a proposé.
Ça va être super. on va maintenant choisir des réponses de Google.
Ben, c'est vrai que ça c'est une des fonctions, mais il y a aussi.
Enfin, il y aura des trucs un petit peu plus sympas. Par exemple, tu vas aller au cinéma ce soir,
exactement,
il va comprendre que ce sera oui ou non. Donc en fait, on n'aura plus qu'à cocher sur oui ou
tout
non.
Tout à fait, il y a ce genre de choses. Et puis, il y a aussi le fait qu'on pourra, là encore, appeler un bot Google. Hein, et Google fera partie de nos amis dans cette messagerie-là. Et donc, on pourra lui poser, encore une fois, toutes les questions qu'on veut et éventuellement nous aider pour typiquement réserver des places de cinéma avec un copain, etc., etc. Donc ça, c'est Allo. Ça va sortir encore dans quelques temps. On ne sait pas encore exactement quand. Et le truc, c'est que Google n'a pas sorti une messagerie, mais deux, puisque voilà. Ça aurait été trop simple. La deuxième est beaucoup plus simple en même temps. Elle s'appelle Duo. Ce qui est intéressant, c'est que c'est de la visiophonie. Alors la visiophonie, c'est pas nouveau. On commence à bien connaître ça avec FaceTime.
Ce que
fait Hangouts aussi. Alors la petite différence dans Duo, c'est qu'il y a une fonction que Google appelle Knock Knock, qui en fait peut changer tout, peut-être en visiophonie. Ce sera marrant de voir ce que ça va donner. Ce que ça permet de faire, c'est que quand quelqu'un vous appelle, il est déjà filmé. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez recevoir un coup de fil, avant de décrocher, vous allez voir la personne, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, est-ce qu'elle est à la plage, est-ce qu'elle est en train de vous dire coucou.
Ouais.
Et d'après Google, ce petit changement de voir la personne avec qui on va parler avant d'entamer la conversation, quelque chose qui va changer un petit peu la visiophonie. On attend de voir, on a hâte de la tester, mais bon, c'est une petite visiophonie, voilà.
Bon, c'est bizarre quand même ce truc-là, mais
oui.
Bon, on va voir ce que ça donne.
Et surtout d'avoir séparé deux nouvelles applis, plus Hangouts. Hangouts ne disparaît pas, évidemment, c'est deux applis supplémentaires.
On enchaîne maintenant avec la nouvelle version d'Android M. Là, c'est du costaud, du lourd, hein, puisque ça sera la prochaine version qu'il y aura dans les smartphones Android.
Ouais.
On n'en sait pas plus concernant le nom, c'est N. Et d'ailleurs, Google dit, écoutez les gars, je sais pas trop, essayez de me trouver un nom gourmand, hein, avec N.
Exactement.
Voilà, donc ça va partir dans tous les sens.
Voilà, ils demandent
aux internautes. Moi, je prône pour Nutella, mais après, c'est une question
effectivement,
personnelle. On verra bien.
On verra bien, ouais. Mais effectivement, ils demandent aux internautes de choisir. Ils l'avaient plus ou moins promis précédemment, donc c'est les internautes qui vont choisir.
On parle rapidement de réalité virtuelle, qui est un gros morceau quand même de cette nouvelle version d'Android N.
Alors c'est effectivement ce que Google appelle Daydream. Daydream, ça va être la réalité virtuelle selon Google, et ça va être une partie intégrante de certains téléphones Android N qui répondront à un cahier des charges bien précis pour pouvoir être parfait pour la réalité virtuelle.
Oui.
Et voilà. Et là, et c'est tout un écosystème qui va se créer avec des Samsung, avec des Huawei, avec tous ces gens-là. Ils vont créer des smartphones compatibles Daydream pour avoir demain des smartphones et des casques de VR compatibles Google. Hein. Il y aura toute une interface spécifique, etc. On s'attendait un petit peu plus. Mais
tout un écosystème. Et puis, pour terminer, donc, Instant Apps, ça c'est quelque chose qui vous a vraiment marqué, on va dire.
Exactement,
Eric,
c'était une des dernières annonces. En fait, c'est tout simplement que demain, il se pourrait bien que vous n'ayez même plus besoin de télécharger, de passer par le Play Store, le Google Play Store, pour télécharger une application Android. En fait, Google a mis au point une technique qui permet aux développeurs, rien qu'en cliquant, quand l'internaute clique sur un lien, de télécharger, si vous voulez, en streaming, de streamer, si vous voulez, cette application.
Par exemple, je reçois un lien, t'as vu, cette photo Snapchat, elles sont rigolotes, je clique dessus.
Voilà.
J'ai pas l'appli Snapchat, par exemple, sur mon mobile.
Exactement.
Mais ça va me télécharger un bout de l'appli Snapchat pour que je puisse voir ce qu'on me propose.
Ça va vous télécharger une partie de l'appli Snapchat et que vous pourrez ensuite installer par un lien si vous avez envie. Mais, ce qui est dingue, c'est que ça change un petit peu tout. Parce que maintenant, si les développeurs construisent des applications qui modulaires de ce type, eh bien, demain, on ira de moins en moins sur le web.
Mais l'appli n'aura même plus besoin d'exister, finalement.
Voilà. Alors, l'appli, effectivement, quand on voudra toujours y aller, mais on pourra l'installer. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça va sans doute diminuer le temps qu'on passe sur le web au profit des applications.
Et,
ça change un peu tout, en fait. On va voir ce que va répondre Apple à ça. C'est assez intéressant, en tout cas, et c'est quelque chose dont on va beaucoup parler, je pense, dans les mois qui viennent.
Cela dit, est-ce que Google n'est pas aussi en train de se tirer une balle dans le pied? Parce que si on utilise moins Google, on utilisera moins de liens, enfin tous les liens contextuels publicitaires de Google. Ça veut dire qu'il y a peut-être un nouveau modèle économique à trouver.
Exactement.
Et ça, c'est un autre débat.
C'est un autre débat.
Merci beaucoup, Eric. Eric Le Bourlot, rédacteur en chef donc de Zeronet.com. Vous restez avec nous, suite et fin de l'atelier dans un instant, avec entre autres le crash test d'Antoine Cyr. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business dans un instant. Cours de paddle avec Antoine Cyr pour terminer cet atelier. Oui, ce sera le point de départ de ce crash test. Mais auparavant, c'est le décryptage de Lila Megrawa. Et Lila, avec vous, on va parler de l'outcome économie ou l'économie au résultat.
Oui, François, je vais vous parler d'outcome économie. Le big data a bel et bien un modèle économique et c'est l'outcome économie, l'économie, si on traduit, de résultat au résultat. Alors retenez bien ce terme, c'est sûrement l'avenir de l'industrie. Alors qu'est-ce que j'entends par outcome économie ? J'entends que les sociétés, les entreprises commenceront non plus à vendre des produits ou des services, mais des solutions qui produisent immédiatement des résultats quantifiable. Et cette disruption sera bel et bien rendue possible par l'Internet des objets à échelle industrielle. Si aujourd'hui l'Internet des objets industriels, rejeton de l'industrie 4.0, permet d'améliorer la productivité en assistant à la fois l'opérateur et donc à réduire les coûts, voire la pénibilité du travail de l'opérateur, demain il œuvrera grâce à la captation et surtout la compréhension de toutes les data, données générées à l'émergence de cette outcome économie. Alors, un exemple, à Los Angeles, vous avez la société Streetline qui a mis en place, qui a installé pour le compte de la municipalité 7000 capteurs dans les grands axes urbains, les rues, donc des capteurs qui permet à Streetline de connaître à temps réel les possibilités de stationnement dans la ville. Alors tout ça, ça représente une augmentation de 2% rien que cette année pour la municipalité. 2%, une augmentation de 2% des revenus générés par le parking en dépit d'une baisse de coûts du stationnement, du prix du stationnement pour les citoyens. Alors, bienvenue dans le monde de la hotcom économie, un monde où les sociétés instaureront de nouveaux produits ou services à l'appel qui disrupteront leur propre marché grâce à leur or, leur fonds, leur trésor, à savoir leur propre data. Alors, un autre exemple issu du secteur de la santé, celui de la start-up Proteus. Alors, Proteus intègre des capteurs dans les pilules qu'elle fabrique. Au-delà de capter quand les patients prennent leurs médicaments, cet hardware intégré réagit quelque part en ceci que si le patient oublie de prendre son médicament, il recevra grâce à ce système une simple alerte. Alors, réduction des coûts, check. Meilleur traitement, check. Un autre exemple encore plus fun. Demain, vous irez au théâtre. Et au lieu de payer votre billet pour voir le spectacle, vous payerez selon votre nombre de rires, grâce à un système de reconnaissance faciale. Bon, je ne sais pas trop si c'est si fun, si plaisant que ça, mais le Theater Neu, un théâtre à Barcelone, le teste déjà. Ou bien, prenons le cas de l'agriculture. Les Monsanto et consorts pourraient plus que vendre des tracteurs et de l'équipement agricole, vendre un résultat, un rendement des terres grâce à toutes les données captées. Toujours grâce à nos amis capteurs, à notre ami hardware. Alors, pour autant, le software est-il mort? Vive le hardware! Oui, certainement, parce que bien utilisé, il permettra à l'entreprise utilisatrice de toujours mieux connaître son client. Plus qu'accessoire, l'hardware et donc la data fera partie de l'ADN de tout business à venir. Amen.
Lila Megrawa, merci. Mon cher Antoine, qu'est-ce qui vous arrive? C'est les beaux jours qui sont bientôt là, les envies de mer, de sable. On va parler du paddle cet après-midi.
C'est exactement ça. C'est exactement ça, l'envie de sport, l'envie d'été, l'envie de bouger.
Eh bien, ça arrive, hein. Voilà. Écoutez, on y est bientôt.
Voilà. Alors, il y a cette envie de bouger, et donc, il y a ce mot, paddle, qui circule. Voilà, vous croisez des gens qui vous disent qu'ils font du paddle, donc vous dites, ça doit être vachement bien.
Oui, 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 voilà, c'est branché un peu.
Ouais, c'est branché, c'est geek, hein, c'est pour ça que j'en parle dans le milieu numérique. Le crash test, parfois, c'est le lieu pour aborder la culture un peu geek. Et donc là, on est dans des sports qui vont bien avec la geekitude. Sauf que, quand on parle de paddle, de quel paddle parle-t-on?
Oh alors, mon Dieu, il y aurait plusieurs paddles.
Eh oui.
Oh là là.
Paddle, paddle, paddle. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Alors, évidemment, aujourd'hui, là, tout de suite, quand on vous dit paddle, vous pensez sans doute au stand-up paddle.
Oui.
Vous connaissez. Donc le stand-up paddle, vous connaissez.
Le stand-up paddle, c'est celui justement qu'on utilise dont on s'amuse l'été.
Avec lequel on s'amuse l'été. Sauf que vous allez voir, les autres paddles, on peut s'amuser l'été aussi tout à fait.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc le stand-up paddle est surnommé SUP. Les gens qui vraiment ne veulent pas employer des termes anglais disent tout simplement planche à rame. Et donc là, vous voyez.
Et là.
Là vous voyez, ça c'est clair quand même pour ceux qui ne connaissent pas.
On fait plaisir à tous ceux qui détestent les anglicismes.
Et donc c'est un sport de glisse où le pratiquant, en fait, est debout sur une planche qui est un peu plus longue qu'une planche de surf classique et qui donc se propulse à l'aide d'une pagaie, la pagaie étant le paddle en anglais.
Oui.
Et donc, voilà, c'est la pagaie.
Alors, pour les abdos, c'est terrible, hein, d'ailleurs.
C'est un vrai sport qui est né dans les années 60 à Hawaï et qui est revenu sur le devant de la scène il y a seulement 10-12 ans. Et donc la discipline se développe de petit à petit et se montre particulièrement adaptée lorsque les vagues sont petites. Parce que lorsque les vagues sont grandes, vous avez envie d'aller faire du surf et puis c'est ça qui correspond. Mais donc lorsque les vagues sont petites, on voit souvent un peu partout fleurir des
séparations. Parce que c'est plus compliqué de rester debout quand il y a des grosses vagues.
Oui, bien sûr. Et le stand-up paddle, c'est vraiment un truc qui vous permet de marcher sur l'eau quand les vagues ne sont pas trop importantes. Enfin, de godiller sur l'eau. Mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression de se déplacer en étant un peu comme un marcheur, puisque finalement, on est debout sur l'eau. Il y a une section du stand-up paddle qui est dédié à cette activité au sein de la Fédération française française de surf. Donc vous voyez, la Fédération française de surf a été astucieuse.
D'accord.
Elle a préempté le paddle. Le problème, c'est qu'il y a un autre sport qui n'a rien à voir, qui s'appelle le padel, P-A-D-E-L, et qui est un sport de raquette, figurez-vous.
Tiens.
C'est un sport qui se pratique uniquement en double, en extérieur comme en salle, avec une caractéristique qui est que le terrain est clos, il est fermé par des vitrages, il est surmonté de grillages en fond de cour et de grillages sur les côtés. Donc c'est en somme
une espèce de squash, mais
c'est une sorte
plus
de
grand.
Squash plus grand, exactement. Et ce sont les parois qui font. En fait, ça fonctionne beaucoup comme le tennis, mais en même temps, ce sont les parois qui servent de
à faire
ligne
rebondir la balle
de fond
sans
de court.
Doute.
Ah voilà. Ouais. Alors il y a des règles qui sont différentes du tennis tout de même, mais là où on voit que ça a un point commun avec le tennis, c'est que si vous vous promenez sur le web, vous allez voir par exemple que le grand promoteur du paddle en France, c'est un certain Henri Lecomte.
Tiens.
Donc il a son site Henri Lecomte Paddle. Il y a le tour, le Henri Lecomte Tour de paddle. Donc c'est vraiment un truc. Enfin le voilà, ça se joue un peu partout. Et donc c'est Lecomte. Il y a des vidéos où Lecomte explique en quoi ça consiste, etc. C'est assez amusant de regarder d'où vient ce sport. Il a été inventé par un Mexicain qui s'appelait de son petit nom Enrique Corcuera, qui vivait à Acapulco, il y a pire. Seulement à Acapulco, le mètre carré est cher, et donc il n'avait pas assez d'espace autour de sa maison pour un court de tennis. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il construit un court de 20 mètres sur 10 mètres, encadré de murs hauts de 3 à 4 mètres.
Et comme ça, les balles ne partent pas.
Au lieu d'une raquette de tennis, il se rend compte qu'une espèce de batte plate en bois fera mieux l'affaire. Et donc, il y a un ami espagnol qui lui rend visite en 1974 et qui trouve ce sport tellement génial qu'il ramène l'idée avec lui à Marbella.
Tiens.
Alors là, ils étudient un peu, ils changent un peu
ils optimisent tout ça.
Ils optimisent tout ça, les dimensions. Et donc, les deux premiers courts de paddle sont construits au Marbella Club, où Alfonso de Hohenlohe, donc ça doit être une grande famille germano-espagnole qui doit dater du temps de Charles Quint. Hein, et donc, ce brave Alfonso de Hohenlohe partage donc cette nouvelle passion avec la jet set puisqu'il y appartient. Et donc,
oui, ça devient un peu le sport à la mode. Là-bas.
Voilà, ça devient le sport à la mode. Et donc, c'est un sport qui aujourd'hui est en train de devenir à la mode en France, notamment dans le sud-ouest. Il est arrivé par l'Espagne dans le sud-ouest. Il y a eu beaucoup de tournois, évidemment, en Espagne qui ont été organisés sur la Costa del Sol. Le jeu a été emmené en Argentine. Sachez qu'aujourd'hui, il y a 2 millions d'Argentins qui jouent au padel et 3 millions d'Espagnols qui jouent au padel. Donc, c'est pas du tout quelque chose d'anecdotique.
Non, non, non.
C'est un sport qui s'est réellement développé. Et d'ailleurs, là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle, je vous disais tout à l'heure que le stand-up paddle avait été préempté par la Fédération française de surf.
Ouais.
Et là, il y a une Fédération française de padel qui s'est créée, qui est différente de la Fédération française de tennis.
D'accord.
Et donc, on voit bien qu'il y a une espèce de capacité de ce sport à s'autonomiser par rapport au tennis qui vient, en fait, de la croissance absolument frénétique qu'il a connue au cours des dernières années et notamment des 15 dernières années. Ce serait tellement simple si ce crash test s'arrêtait là.
Vous voulez dire par là qu'il y a d'autres paddles ?
Eh oui, un autre sport qui s'appelle, lui, le paddle tennis.
Le paddle
et
tennis.
Et donc, contrairement à padel, le sport de raquette dont je vous parlais avant, qui s'écrit P-A-D-E-L, le paddle tennis, lui, s'écrit comme le stand-up paddle. Donc cette fois-ci, c'est comme si c'était un tennis qui se joue avec une pagaie. Hein. Et donc, lui, il est beaucoup...
Il faut faire attention au joueur qui est à côté.
Lui, il est beaucoup plus ancien. Il est joué depuis la fin du 19e siècle. Le court est plus petit, ne contient qu'un seul couloir au lieu de deux. Le filet est également moins haut. Et il se joue avec une raquette solide, des balles de tennis qui sont dépressurisées et un service qui se fait à la cuillère. Donc c'est une espèce de tennis beaucoup moins violent, évidemment, beaucoup plus doux. Alors là aussi, il est né pour des questions d'espace. C'est très amusant. Il est né sur des bateaux britanniques aux alentours de 1890 pour permettre de divertir les passagers. messager, et en fait ce serait une forme de tennis donc adapté à l'espace disponible. Voilà. Et donc
c'est rigolo,
ça s'est développé aux États-Unis, ça existe aux États-Unis plutôt comme un sport d'extérieur, comme un sport de divertissement, beaucoup moins officiel que les deux précédents dont je vous ai parlé.
Le padel tennis.
Le padel tennis.
Et bien voilà. Maintenant,
confondre donc avec le padel qui est un tennis aussi et avec le stand-up padel qui lui est un surf.
Oh là là, rien que d'y penser là, ça nous fatigue. On n'a plus envie de faire du padel. Merci beaucoup Antoine pour terminer ce crash test donc et cet atelier numérique. Je vous souhaite un bon week-end, bon samedi à vous toutes et à vous tous. On sera là évidemment samedi prochain 16h-18h sur BFM Business, l'atelier numérique. Salut à tous.